Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalot enregistrée dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalot, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalot, 9e épisode, le monachisme.
Extrêmement prospère au début du deuxième millénaire, le monachisme traditionnel connaît ensuite, jusqu'à son renouveau au XIXe, une continuelle décadence. D'autres formes d'idéal religieux prédominent, parmi lesquelles le modèle mendiant, puis le jésuite, jouent un rôle majeur. Ainsi verra-t-on apparaître, survivre et coexister un grand nombre d'ordres et de congrégations divers, entre lesquels les différences sont souvent minimes, mais qui tiennent à sauvegarder leur identité, leur autonomie et, comme on entend dire quelquefois, le charisme de leur fondateur. Après un bref rappel concernant le monachisme au premier millénaire, nous parlerons successivement de la gloire de Cluny, de la réforme de Cîteaux, des mendiants et de la Compagnie de Jésus. Né à la fin du IIIe siècle dans les déserts d'Égypte, le monachisme, soit érémitique, soit cénobitique, s'est répandu d'abord en Palestine et en Syrie, puis dans toute la catholicité. Codifié par Pacôme, Basile, Augustin, Cassien et d'autres, il trouve dans la règle de saint Benoît de Nursie une forme qui, du fait de la préférence que lui accordent des autorités aussi considérables que celles du pape Grégoire le Grand, de l'empereur Charlemagne et de saint Benoît d'Aniane, s'impose à l'ensemble du monachisme occidental. En Gaule, les premiers moines se groupent dès le IVe siècle à Ligugé et à Marmoutier, par exemple, dans la zone d'influence de Saint-Martin de Tours. Le Ve siècle voit naître et s'épanouir le cénobitisme provençal, dont l'Hérens et Saint-Victor de Marseille sont les plus beaux fleurons. Plus tard, ce sera l'apport des moines irlandais. Puis la Renaissance carolingienne suscite un tel développement du monachisme qu'on a pu parler d'un âge d'or à cet égard. On compte 650 monastères sur le vaste territoire, 1 million de kilomètres carrés, de l'Empire. Le monachisme médiéval s'inscrit donc dans une tradition déjà longue. Un nom le résume: Cluny. À l'acmé de son développement, Cluny, ce sont 10 000 moines, 1500 monastères ou prieurés plus ou moins importants, répandus jusqu'en Italie, en Angleterre, en Catalogne, en Castille, la Charité-sur-Loire, Sainte-Trope-de-Sainte, Moissac, Vézelay, Sahagoune, Saint-Paul-Hors-les-Murs, entre tant d'autres, font partie de l'ordre clunisien. À l'époque, l'église abbatiale de Cluny est la plus grande église de la chrétienté. Avec ses 124 mètres de longueur, actuellement, en fait, depuis, on a construit des églises beaucoup plus grandes. Mais à l'époque, donc, avec ses 124 mètres de longueur, 40 de largeur, une nef à 30 mètres de hauteur, 2 tours, 5 clochers, c'était la plus importante, la plus grande. Construite sous l'abbatia de Hugues de 1088 à 1108, elle a été démolie presque entièrement avec une véritable sauvagerie, dit Louis Breillet, entre 1811 et 1823. Trois raisons principales sont communément avancées pour expliquer l'importance et le succès du mouvement clunisien. D'abord, l'acte de fondation en 909 par le duc d'Aquitaine Guillaume le Pieux, qui mit l'abbaye à l'abri de toute ingérence civile ou épiscopale, assurant son indépendance et sa liberté. Ensuite, la valeur et la longévité des abbés qui présidèrent à sa destinée. Bernon, Odon, Aymar, Mailleul, Odilon, Hugues de Semur. Tous ont été tenus pour des saints. Odilon et Hugues ont été à la tête de l'ordre clunisien chacun pendant plus de 50 ans, Mailleul pendant 46 ans. Enfin, Cluny devient rapidement un ordre et non une seule abbaye. Ses moines essaiment pour de nouvelles fondations, mais surtout de nombreux établissements, soucieux d'une saine réforme, se placent sous son autorité, en sorte qu'on a pu parler de Cluny comme d'un empire monastique. Sa richesse était énorme. Pour ce qui est de la vie quotidienne des moines, la relation de la visite faite par Pierre Damien, le cardinal Assète, est assez significative. Le fait marquant dans le rythme monastique de la grande abbaye bourguignonne, et normalement de toutes celles qu'il apprenait pour modèle, était le développement extrême de la liturgie. Des obligations ont été ajoutées à la règle de Benoît de Nursie. Messe privée ou commune, psautier complet, prière surérogatoire. Une stricte application du système dans son entier aurait conduit à une présence des moines dans l'église durant 15 à 18 heures par jour. Cette surabondance, dit Michel Paris, peut-être avec quelque ironie, justifiait la riche nourriture proposée aux Clunisiens, dont le cardinal ermite italien, Pierre Damien, s'offusquait. Le travail manuel en avait certes fortement pâti, et les convers, laïcs à demi-moines chargés des tâches matérielles, avaient pris une place nécessaire et censée s'accrue. C'était un fait nouveau à souligner. La vie intellectuelle n'avait pas pour autant manqué, et la méditation des textes sacrés, l'instruction et l'écriture y avaient une grande place. La prépondérance de Cluny au Xe et XIe siècle, son importance considérable encore au XIIe et au XIIIe, ne doivent tout de même pas nous faire oublier d'autres initiatives et fondations qui étoffent ce mouvement de rénovation qu'on a appelé la réforme grégorienne parce que le grand pape Hildebrand l'a fortement encouragé. L'érémitisme connaît une nouvelle faveur à laquelle contribue Saint Romuald de Ravenne, mort en 1027, le fondateur des Camaldules. Saint Bruno de Cologne, qui fonda en Dauphiné en 1084 la Grande Chartreuse et termina ses jours en Calabre, à Santa Maria della Torre, le 6 octobre 1101. Gérard de Brogne, dans les Flandres. Jean de Gorze, en Lotharingie. Jean Gualbert, à Vallombreuse, dans la Toscane. Robert de Turlande, le fondateur de la Chaise-Dieu, contribue à l'essor du mouvement monastique. De nombreux chapitres, et d'abord celui de la collégiale Saint-Ruf d'Avignon, se mettent à l'école de Saint-Augustin. Ainsi apparaissent les chanoines réguliers, menant la vie commune, mais claire et non pas moine, qui joue un rôle pastoral considérable auprès des populations des villes et des campagnes et ouvre de nombreuses écoles. Et nous n'aurons garde d'oublier Robert d'Arbrissel, un breton, dont on a dit que parmi tous les fous de Dieu, il était le moins sage. Une horde l'accompagnait dans ses errances apostoliques, où se mélangeaient aux hommes des femmes jeunes et vieilles, vierges, veuves, adultères et prostituées. Il se fixa quelque temps en Fontevraud, aux confins de l'Anjou et du Poitou, pour la fondation d'un monastère double, d'hommes d'un côté, de femmes de l'autre, dont il confia la direction à Pétronille de Chemillé, femme d'expérience, qui gouverna Fontevraud pendant 50 ans. D'importance longtemps médiocre, Fontevraud connut une extension surprenante au XVIIe siècle, mais disparut sous la Révolution. La fondatrice des Filles de la Croix, sœur Jeanne-Élisabeth Bichier des Arches, acquit une de ses maisons qui n'est pas sans allure pour en faire, c'est à l'appui, en Poitou, la maison mère de la congrégation. Saint Bernard n'est pas le fondateur de sitôt. Avant son arrivée et celle de ses 30 compagnons dans la rue d'Abbaye Bourguignonne, sitôt se trouve dans le canton de Nuits, à une trentaine de kilomètres au sud de Dijon, à une centaine de kilomètres au nord de Cluny. Ses fondateurs, Robert de Molesme et Aubry, s'étaient succédés à la tête du monastère et en 1112, l'abbé en était Étienne Harding, un Anglais. Sitôt était à l'origine un endroit sauvage et inaccessible, où les bois impénétrables alternaient avec les fourrés épineux et où ne séjournaient que des bêtes sauvages. Dans un dénuement total, les moines se mirent à l'ouvrage, débarrassèrent un coin de ronces et construisirent une demeure en bois où ils purent vivre selon leur idéal de pauvreté. L'abbé Aubry a précisé l'idéal et les règles de sitôt dans un exordium parvum où l'on trouve par exemple les lignes suivantes. Dès lors, cet abbé et ses frères, se souvenant de leurs promesses, résolurent unanimement de s'établir en ce lieu et d'observer la règle de Saint Benoît, rejetant tout ce qui y était opposé, c'est-à-dire les frocs et les pelisses, les étamines, les capuces et les caleçons, les peignes et les courtes pointes, les garnitures de lit, ainsi que la diversité des mets au réfectoire, la graisse aussi, et tout ce qui est contraire à la pureté de la règle. Ainsi, ils disposèrent toute la conduite de leur vie en conformité avec l'exactitude de la règle, tant dans les choses ecclésiastiques que dans les autres observances. Dépouillés du vieil homme, ils se réjouissaient de s'être revêtus du nouveau. Et parce qu'ils ne lisaient ni dans la règle ni dans la vie de Saint Benoît que ce même maître eût possédé des églises et des autels, des oblations ou des sépultures, ou la dîme des autres hommes, ou des fours, des moulins, des villages, des paysans, ni que les femmes aient eu entré dans son monastère, ni qu'il y ait enseveli des moines, sa sœur exceptée. Ils rejetèrent toutes ces choses, disant, puisque le bienheureux père Benoît enseigne que le moine doit se rendre étranger aux mœurs des séculiers, il témoigne clairement par là que ces choses ne doivent se trouver ni dans les actions, ni dans le cœur des moines, qui en les fuyant doivent justifier l'étymologie de leur nom. On sait que le costume cistercien se compose uniquement d'une tunique de laine grossière, de couleur blanche, et d'une coule, un vêtement à capuchon et à large manche, de même étoffe, que l'on remplace pendant le travail par un scapulaire sans manche. La couche sera une simple paillasse garnie d'un oreiller également en paille. Quant à la nourriture, viande et graisse sont bannies, le repas se compose de deux mets au plus, avec quelques fruits et une livre de pain. Sans bénéfice, c'est-à-dire sans bien qui leur procure des revenus, les cisterciens vivent uniquement du travail de leurs mains. Ils établissent leur couvent loin des villes, au milieu des forêts qu'ils défrichent ou des marécages qu'ils gagnent à la culture. Pour l'exercice du culte, ils ne veulent ni vases de prix ni riches ornements, et l'on sait qu'ils étendaient leur austérité aux bâtiments eux-mêmes. Le style dépouillé des églises cisterciennes s'oppose à l'abondance, si ce n'est pas le luxe, et à la luxuriance clunisienne. Leur vie de prière tendit à réduire la part des célébrations liturgiques de façon à rendre au travail manuel, à la prière individuelle et à la méditation le temps nécessaire. Par là, sitôt réagit contre le côté extérieur de la spiritualité clunisienne et restaure la notion de vie intérieure, la prière étant avant tout un entretien de l'âme avec Dieu qu'il faut éviter de troubler en quoi que ce soit. Donc, en 1112, lorsque le jeune seigneur de 22 ans, Bernard de Fontaine, entre à Cîteaux, l'esprit et les usages d'une profonde réforme bénédictine sont en place. Mais l'abbaye végétait, et ses quelques fondations également. Ce que Bernard lui apporte, c'est le succès. Un succès fulgurant, comparable à celui de Cluny. Les filiales de Clairvaux et de Morimont se comptent par centaines. 340 à la mort de Bernard en 1153. De la Norvège à l'Andalousie, de l'Irlande à la Pologne. Il faut admirer que tant d'hommes et de femmes aient été conquis par un aussi haut idéal. Et il faut admirer aussi la puissante personnalité de cet homme, exceptionnel comme orateur, comme mystique, comme écrivain, comme théologien, d'une activité inlassable, concerné par toutes les affaires du temps, qu'elles fussent politiques ou religieuses. Après lui, l'ordre déclina, et les cisterciens méritèrent à leur tour les gentillesses qu'ils adressaient aux Clunisiens quand ils les traitaient d'efféminés ou de prévaricateurs de la règle. La postérité qui a retenu la gloire de Saint Bernard a davantage négligé celle de Saint Norbert, né à Xanten en 1081, mort à Magdebourg en 1134. Ses contemporains le tenaient pour les mules de Bernard, sinon pour lui être supérieur. Chanoine relâché de Xanten en Rhénanie, il avait 35 ans quand il fut frappé par la foudre qui tua le cheval et convertit le cavalier. Dès lors, il fut à travers l'Allemagne, les Flandres et la France l'un des prédicateurs itinérants les plus considérables de l'histoire de l'Église. Il mourut archevêque de Magdebourg. Précédemment, il avait fondé à Prémontré, près de Laon, avec son collaborateur et ami Hugues de Fosse, l'ordre de chanoines réguliers soumis à la règle de Saint-Augustin, qui devait avoir un extraordinaire succès. On comptait 1300 maisons de Prémontré au milieu du XIVe siècle, parmi celles-là, proches de nous, celles de Laonce et d'Urdax, qui en gardent d'importants vestiges, et Béroz, Lantabat et Sarance. Le grand tournant dans l'histoire de la perfection chrétienne se situe au début du XIIIe siècle. Avec cet homme incomparable, il più santo degli uomini, il più umano dei santi, qu'est François d'Assise, qui vécut de 1182 à 1226, qui pourra dire tout ce qu'il a apporté à l'Église. Jusqu'à lui, l'idéal chrétien consiste à se retirer du monde, à vivre le face-à-face avec Dieu dans la prière, la pénitence, la purification. Lui retrouve les consignes évangéliques telles qu'elles sont portées au chapitre 10, soit de Matthieu, soit de Luc. L'Évangile, c'est l'annonce au monde de la grâce divine, cela dans le dépouillement absolu, sans argent, sans chaussures, sans sac, sans bâton, le royaume des cieux est tout proche. Sur le monde, François porte un regard nouveau, non pas de méfiance ni de condamnation, mais de confiance, de fraternité, de compassion. Et il retrouve la joie de Jésus, celle des béatitudes. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. On exagère à peine si l'on dit que François d'Assise est une réincarnation de Jésus de Nazareth. La stigmatisation de la Verna en témoigne. Le message franciscain, l'Église entière, que dis-je, le monde entier l'a reçu et l'entend encore. Mais d'abord et surtout, ceux qui font ouvertement profession de le suivre dans l'un ou l'autre des trois ordres franciscains. La vie religieuse des mendiants conjugue trois choses, la pauvreté des ermites, la prédication des apôtres, la vie conventuelle des moines. L'exemple de François rencontre un succès foudroyant. On se précipite en masse dans l'un ou l'ordre des trois ordres. 3000 à la mort du saint, les franciscains sont 30 000 un siècle après, répartis dans 1400 couvents. Désormais et pour des siècles, l'action des mendiants est prédominante dans et pour le peuple chrétien. On peut parler sans exagération, écrit André Vauchez, d'une implantation massive des ordres mendiants en milieu urbain à la fin du XIIIe siècle. Leur succès tient à ce qu'ils apportaient aux fidèles ce que le clergé séculier avait longtemps été incapable de leur donner, l'exemple d'une vie morale irréprochable et d'une science suffisante mise au service d'une meilleure présentation et transmission du message chrétien à travers la prédication. Le chroniqueur Mathieu Paris et les miniaturistes du temps nous ont montré ces mendiants s'en allant à pied, sans autre bagage qu'une sorte de gibecière cylindrique portée en bandoulière, d'où ils tiraient un manuel de piété, un sermonnaire, une somme d'autorité, c'est-à-dire un choix de citations des pères et d'exemples ou anecdotes dont ils faisaient grand emploi. Ils s'arrêtaient partout, dans les églises, les couvents, les châteaux, sur les places, les champs de foire, les enclos des tournois. Simples, austères, pauvres, vivant de ce qu'on leur donnait, ils impressionnaient les masses. Quand ils parlaient, ils ne reculaient devant aucune puissance, ne biaisaient avec aucune vérité. Certains de ces prédicateurs, comme le portugais Saint-Antoine de Padoue ou Berthold de Ratisbonne, plus tard le dominicain Vincent Ferrier, Bernardin de Sienne, Jean de Capistran, et au siècle dernier encore, un Antoine-Marie Claret ou un Diego de León, acquirent une renommée géante. Leur rude langage, accompagné du ministère de la pénitence, faisait grande impression. François d'Assise n'avait jamais eu la moindre idée de fonder un ordre religieux. Simplement, il avait été irrésistiblement poussé à suivre le Christ du plus près possible. La mise en pratique par des foules de disciples de l'utopie franciscaine engendra toutes sortes de difficultés, de conflits et de compromis auxquels sont attachés des noms comme ceux d'Élie de Cortone et de Bonaventure. François avait voulu qu'au sein du mouvement qu'il avait suscité, il n'y ait plus ni riches ni pauvres, ni lettrés ni gens incultes, ni clercs ni laïcs, ni hommes ni femmes. Ces distinctions, écrit André Vauchez, ces distinctions ne tardèrent pas à reparaître parmi ceux qu'il avait suivis, par amour certes, mais sans toujours comprendre où il voulait les mener. Devant ses yeux, sa fondation se transformait en un ordre religieux comme tant d'autres, soucieux avant tout d'efficacité apostolique à court terme, et prêt pour cela à renoncer à certains aspects du genre de vie évangélique qui leur paraissaient inutiles ou gênants. Installation fixe, construction de couvents et d'églises, introduction de pratiques ascétiques ou liturgiques de type monastique, relâchement en matière de pauvreté et de simplicité, intérêt croissant pour les études et la science, toutes ces entorses à l'idéal primitif, François semble les avoir ressenties comme autant de trahisons qui ont suscité chez lui inquiétude et scrupules. De même, parmi ses disciples, on verra au fil des siècles, chez les spirituels, les fraticelles, les franciscains réformés, les capucins, l'aspiration à se conformer au pur idéal de leur maître tel qu'il est porté par sa première règle et par son testament. Au début du XVIe siècle, les trois branches du premier ordre franciscain vont se distinguer, sinon se séparer définitivement, les conventuels, les observants et les capucins, ces derniers tout récemment fondés à l'initiative de Matteo di Bascio et de Bernardino Occhino. L'importance du mouvement franciscain ne doit pas nous faire oublier d'autres fondations contemporaines qui s'inspirent d'un souci analogue de pauvreté pour une authentique vita apostolica. C'est d'abord et surtout l'ordre des frères prêcheurs, fondé par saint Dominique de Guzman. L'entreprise vise originellement la conversion des cathares et son initiateur l'oriente très vite vers l'intelligence et l'expression de la foi, autrement dit la théologie, dans les centres universitaires et intellectuels. Et il faudrait encore s'attarder sur les carmes, fidèles à l'esprit de leur tradition érémitique, sur les servites, sur les apostoliques, sur les frères du sac, sur l'ordre de la pénitence de Jésus-Christ, sur d'autres encore qui témoignent d'un formidable mouvement de rénovation, non seulement de la vie religieuse, mais de la vie chrétienne. Toutes les couches de la société médiévale en sont profondément marquées. Le XIVe et le XVe siècle, durement marqués par les guerres, les famines et les épidémies, peste et fame et bello, ont connu, sur tous les plans, démographiques, social, religieux, de sérieuses difficultés, sinon une pénible décadence. Les religieux n'échappent pas à cette loi. Les monastères subissent la mainmise des nobles, qui les privent souvent du minimum de ressources indispensables. Les mendiants, dont l'influence reste prédominante, se relâchent de leur ferveur primitive, même si on ne manque pas de trouver chez eux de magnifiques exemplaires de sainteté. Signalons tout de même quelques fondations importantes. Celle de Hiéronymite, ou ermite de Saint-Jérôme, fondée en 1367 par Pedro Fernando Pocha de Guadalajara. Ils eurent les faveurs de Charles Quint, qui se retira dans l'un de leurs couvents, à Yuste, en Extrémadure, après son abdication, et de Philippe II, qui leur confia l'Escorial. Celle des Minimes, par saint François de Paul, l'ermite calabrais, qui passa la dernière partie de sa vie en France, auprès des rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII, dont il fut le conseiller. Celle de l'Annonciade, par Jeanne de France, la fille de Louis XI et l'épouse répudiée de Louis XII. Celle de l'Ordre du Saint-Sauveur, par sainte Brigitte de Suède. Et il y aurait lieu d'insister encore davantage sur les milieux dévots des Flandres et de la Rhénanie, les mystiques du XVe siècle, Ruysbroeck l'Admirable, Henri Suzeau, Toller, Maître Eckhart, Thomas Kempis, annonce et prépare l'apogée que la spiritualité chrétienne connaîtra au siècle suivant. Mais pour l'histoire de la vie religieuse, nous pensons que le moment décisif se situe entre 1534, date du vœu que prononce à Montmartre dans la chapelle des martyrs Ignace de Loyola, François-Xavier, Pierre Fabre, Diego Lainez, Alfonso Salmeron, Nicolas Bobadilla et Simon Rodriguez, et 1540, lorsque Paul III approuve les constitutions de la Société de Jésus. Certes, d'autres fondations de l'époque, celles des Théatins par exemple, ou des Somasques, présentent des caractéristiques analogues. Mais du fait de l'importance quantitative et qualitative des jésuites, de l'influence considérable qu'ils vont exercer, du rôle qu'ils vont jouer, c'est bien à Ignace de Loyola et à ceux qui le suivent qu'il faut attacher ce nouveau changement radical. Le premier, nous l'avons dit, on le doit à François d'Assise et à Dominique de Guzman dans la conception de la vie religieuse. Ce qui nous surprend, même encore aujourd'hui, c'est que les jésuites ne pratiquent pas la prière commune de l'office divin. Ils n'ont pas de couvent à proprement parler, pas de chœur. Chacun, selon les constitutions, prie en son particulier. Ils ne sont astreints par leurs règles à aucune pénitence ou mortification physique particulière. Ni la liturgie, ni la pénitence ne sont choses auxquelles doit s'employer leur énergie. Dès lors, il ne reste rien chez eux de cette tradition monastique qui a été conçue pendant un millénaire et davantage comme l'unique chemin de la perfection. Dès lors, on peut être religieux sans être moine, c'est un changement radical. Le jésuite est tout simplement un soldat du Christ, un apôtre. Son unique souci, c'est la conquête des âmes, ad maiorem Dei gloriam. À cette fin, il sera ou un missionnaire, ou un éducateur, ou un conseiller spirituel. Le maître-livre, ce sont les exercices. Les jésuites inventent et répandent la pratique des retraites spirituelles. Pour accomplir l'action missionnaire à laquelle il est appelé, le religieux assoit et approfondit ses convictions par une vie intérieure que nourrit la méditation. Il assure aussi bien la cohésion du corps auquel il appartient que l'efficacité de son action personnelle par une stricte discipline, une obéissance, per indea cadaver. Nous n'entrerons pas dans les détails, la sévérité du recrutement, les 14 années de formation, le vœu supplémentaire d'obéissance au pape, qui concourt, avec d'autres, à l'originalité de la compagnie de Jésus. Le succès de leur enseignement, celui de leur mission en Chine, en Inde, en Amérique, à Madagascar et ailleurs, ont été souvent rapportés et parfois de façon très brillante. Il nous importait quant à nous d'indiquer le tournant brusque que représente la fondation d'Ignace de Loyola dans la façon de concevoir et de vivre la vie consacrée. Que j'ajoute une observation personnelle, une force de la Société de Jésus, c'est la camaraderie, la mâle amitié, la solidarité fraternelle qui unit ses membres. Il y a chez eux comme une camaraderie de combat ainsi qu'au front entre militaires. Les jésuites, évidemment, vont faire école. Désormais, on verra surgir quantité de congrégations vouées soit à l'éducation, soit à l'apostolat missionnaire, conformément aux deux perspectives essentielles de l'action des jésuites. On ne verra plus toujours pourquoi les vœux de religion sont nécessaires. Les fondations les plus représentatives seront non pas de religieux, mais de prêtres enrôlés dans une société et soumis à une règle commune. Ainsi seront les lazaristes, prêtres de la mission, les sulpiciens, l'oratoire, les prêtres missionnaires de la Compagnie de Marie, les prêtres des missions étrangères de Paris, ceux des missions africaines de Lyon. Et l'on sait que François de Sales hésitera longtemps avant d'enfermer les visitandines dans des couvents. Quel chemin parcouru depuis Cété, depuis Wadir Natroun, même depuis Subiaco et le Monte Cassino. Mais les bénédictins, les cisterciens, les chartreux, les carmes sont toujours là quand même. Et la vie consacrée trouvera encore à l'avenir bien des formes nouvelles. On en voit surgir de nos jours.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio Lapourdi. La semaine prochaine, 10e épisode consacré à la chevalerie.